que je vous arrive et que je vous dis « Bonne nouvelle, vous pouvez être libéré de votre boulet de prisonnier. » Qu'est-ce que vous répondez? Ah ouais? Comment ça? Il n'y a pas de boulet de prisonnier, moi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ben non, moi, mon boulet, c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre. Pourquoi ça serait une bonne nouvelle, ça? Pourquoi est-ce que je devrais m'en libérer? Et puis, je pourrais dire, peut-être si je vous disais, hey, vous pouvez être libéré de votre boulet, vous pourriez peut-être dire, ben voyons donc, pourquoi je serais libéré de ça? Tout le monde en a un, c'est normal. Et puis, ça fait des années et des années que j'ai ça, puis ça m'empêche rien de faire de spécial. Il a tendance à se détacher un petit peu, là. Mais ça m'empêche de faire rien de spécial. Je peux faire toutes mes activités normalement. On pourrait penser comme ça, de dire, ben voyons donc, un boulet, ça ne change rien dans nos vies. On l'a toujours eu. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous avez un boulet dans votre vie que vous traînez comme ça? Est-ce que vous avez un boulet? Et peut-être que vous allez me dire, ben non, comme les raisons que je viens de dire, ben non, tout le monde en a un, tout le monde vit comme ça, ça nous empêche de rien faire, de rien faire. Mais la Bible nous dit qu'on en a un boulet. La parole de Dieu nous révèle qu'on a un boulet qu'on traîne dans notre vie. Et ce boulet-là implique ou signifie le fait qu'on est condamné, on est en attente d'un jugement, et puis qu'on traîne notre boulet comme ça, et que tout le monde traîne un boulet comme ça de prisonnier. Peut-être que vous dites, ben non, voyons donc, c'est des histoires, ça, de la Bible, c'est pas nécessairement vrai. La Bible dit que la loi de Dieu, elle est parfaite. La question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que la loi de Dieu vous condamne? Est-ce que la loi de Dieu révèle que vous êtes pécheur? Est-ce que la loi de Dieu révèle que vous avez un boulet que vous traînez? La parole de Dieu dit que oui. Peut-être que vous dites que non. J'aimerais ça qu'on fasse un petit test. Avant qu'on fasse le petit test, on va prier pour que justement qu'on rouvre la parole et puis que Dieu vienne parler à nos cœurs, pour qu'on puisse être sensible justement à savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur sa loi, qu'est-ce qu'elle a à révéler sur nos vies. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, qui s'adresse à nous. Tu nous l'as donnée pour nous, pour qu'on puisse la comprendre, Seigneur. Tu ne nous l'as pas donné pour qu'on puisse chercher à la déchiffrer tout le long de notre vie sans la comprendre, mais tu t'adresses à nous clairement. Seigneur, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs, que réellement on puisse s'ouvrir les yeux sur ce que tu as à nous dire, toi, sur notre vie. Pas qu'est-ce que tout le monde a à dire, qu'est-ce que les hommes ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont inventé, mais qu'est-ce que toi, tu as à dire sur nous. Ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, Seigneur. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen. Est-ce que tu es coupable? Faisons un petit test, OK? Vous connaissez probablement tous les 10 commandements. On ne passera pas au travers les 10 commandements, mais on va en regarder quelques-uns. Est-ce que tu as déjà compté un mensonge? Hein? Un des 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ben, compter un mensonge, ben, probablement comme tout le monde, tu sais, est-ce que ça fait de moi un gars pire que les autres? J'ai compté un petit mensonge peut-être ici, peut-être là, mais qu'est-ce que ça fait de moi? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Mais la Bible dit que si j'ai déjà compté un mensonge, je suis un menteur. Et combien ça prend de mensonges pour que je sois menteur? Un. De quelle grosseur? Même s'il est petit, un petit mensonge fait de moi un menteur. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà volé? Volé? Ben là, j'ai jamais volé d'auto. J'ai jamais attaqué personne pour y voler sa bourse. J'ai pas fait mal à personne. Mais est-ce qu'on a déjà volé? Je sais pas, moi, présentement, c'est très populaire, par piratage. Est-ce qu'on a déjà volé des choses qui appartiennent à notre employeur, qu'on a ramené à la maison? Est-ce qu'on a déjà pris des petites choses comme ça qu'on dirait, ben là, c'est pas du vol. Mais qu'est-ce qui est du vol? Est-ce que c'est juste une auto qui devient un vol? Ou un œuf, ça peut être comme un bœuf aussi? Un vol, c'est un vol. Alors, qu'est-ce que ça fait de moi? Un voleur. Alors, je viens de dire, je suis un menteur, je suis un voleur, j'espère que je ne suis pas le seul, là, mais je suis coupable. Alors, je l'avoue, je suis coupable. Et j'espère que vous pourrez réaliser cette même réalité-là aussi, cette même vérité-là. Est-ce qu'on est des adultères? Là, on va dire, ben non, j'ai jamais couché avec la femme de mon voisin. Ben non, j'ai jamais allé avec le mari de mon voisin. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus disait? Si tu convoites la femme de ton prochain dans ton cœur, c'est comme si tu avais couché avec. Oh boy! Peut-être qu'on a plus d'adultères qu'on pensait. Est-ce que je suis un adultère? Peut-être que oui. Est-ce que je suis un voleur? Peut-être que oui. Est-ce que je suis un menteur? Bien, peut-être que oui. Fort probablement. On vient de passer à travers 3 commandements de les 10. La Bible dit que si j'haïs mon frère, je suis un meurtrier. Là, wow, j'ai jamais tué personne, moi, là. J'ai déjà écrasé une fourmi, c'était par erreur, mais j'ai jamais tué personne. J'ai pas une once de malice en moi. Voyons donc. Mais si la Bible dit que si j'haïs mon frère, je suis comme un meurtrier, ça se peut-tu qu'on ait quelques meurtriers ici parmi nous? Ne levez pas la main. On vient de faire 4 commandements. Je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un adultère, je suis un meurtrier. Est-ce qu'on a déjà pris le nom de Dieu en vain? Ah, mais j'essaye d'arrêter, je ne veux plus le faire. Tu es un blasphémateur. La Bible dit, celui qui prend le nom de Dieu en vain était condamné de mort, était lapidé. Ben, c'est 5 commandements, on n'a pas passé à travers les 10. Est-ce qu'on est coupable devant Dieu? Est-ce qu'on est en train de réaliser qu'on a un boulet qu'on traîne dans nos vies? Est-ce qu'on est coupable finalement? Une chose que Dieu dit qui est bonne pour nous à savoir et qui est bien à avoir aussi, c'est que Dieu nous a placé une conscience. Dieu a placé la loi comme ça dans nos cœurs. Ouvrez votre Bible. Je vais vous citer plusieurs textes ce matin. Et puis, on va arrêter à quelques textes. Puis, il y en a d'autres que je vais vous lire. Commencez dans Romains 2. Romains 2, on va lire les versets 15 et 16. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Est-ce qu'on peut dire, non, moi je ne suis pas au courant de la loi, je ne suis pas condamnable, non, moi je ne la connais pas, oublie ça le boulet, j'ai jamais enfreint la loi de pleine conscience. Mais la loi est comme ça dans nos cœurs, dans notre conscience. C'est vous que ça veut dire conscience? On va prendre 2 mots, le premier préfixe con, qui veut dire avec, puis science, qui est avec connaissance. Alors, nos pensées nous accusent ou rendent témoignage dans notre conscience de cette loi-là qui est là. Est-ce que je suis au courant? Est-ce que je suis au courant de cette loi-là qui est parfaite de Dieu, comme par exemple les 10 commandements? Et ça, je suis sûr que personne ne peut dire « je ne connaissais pas au moins un des 10 commandements ». On en a tous entendu parler. Mais cette loi-là qui est parfaite, que Dieu veut que l'on connaisse, est dans notre cœur et on le sait, on est capable de comprendre les choses que l'on fait de bien ou que l'on fait de mal. Parce que chacun d'entre nous, on a une conscience. Et quand on agit contre notre conscience, c'est un péché. On est en train de révéler finalement que j'ai un boulet. Si je prends le temps d'ouvrir la loi divine, les 10 commandements, et que je vois précisément ce que Dieu me révèle, puis ce que je fais de mauvais, bien, j'ai offensé Dieu en violant sa loi. Et puis, je vous invite à tourner dans Jacques. On va pouvoir dire comme ce que Jacques dit dans Jacques 2, versets 10 et 11. Et gardez un doigt dans Romains, si c'est pas trop tard. On va revenir dans Romains 3. Dans Jacques 2, les versets 10 et 11. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus enchaîné à mon boulet. Il a tendance à se détacher tout le temps. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous être détaché de votre boulet aussi, qu'on va voir tantôt. Mais première des choses, il faut réaliser qu'on est attaché comme ça, qu'on a une condamnation qui pèse sur nous. Et puis Jacques, il dit que cette loi-là, bien, Paul, il dit, on en est tous conscients, on a tous une conscience. Puis Jacques, il dit, au verset 10 et 11 du chapitre 2, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ça veut dire, Jacques, tu es en train de dire que « Ah, ben moi, je ne suis pas un meurtrier. Moi, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas un blasphémateur. Je ne suis pas un idolâtre. Mais j'ai déjà dit un petit péché. Qu'est-ce que ça fait de moi? Coupable. Je suis coupable. J'ai enfreint toute la loi. Parce que c'est le même Dieu qui a donné ces commandements-là. Le même Dieu qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre. » Revenez dans Romains 3. Je vous fais voyager pas mal ce matin, mais je veux que vous puissiez voir ce que les Écritures disent, ce que Dieu dit à notre sujet. Est-ce qu'on pourrait dire, quelqu'un d'entre nous, moi, je ne suis pas coupable. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait attention. J'ai toujours fait attention pour ne pas offenser les autres. Et puis, si j'ai un boulet, mais il est vraiment petit. Il n'est pas si dérangeant que ça. Et puis, tu sais, je l'ai poli un peu. Il n'est pas si laid que ça non plus, là. Tu sais, je le frotte à tous les jours, puis je m'arrange pour pas qu'il paraisse gros, puis quand même qu'il paraisse bien. Et finalement, je suis pas si mauvais que ça, là. Tu sais, mon boulet, il est pas si mal que ça. Puis, fait que pourquoi ça m'empêcherait quand même de connaître Dieu? Mais ce boulet-là révèle qu'on est coupable. Et est-ce qu'on peut dire que parce qu'on a un petit boulet, ou qu'on en a, peut-être même qu'on pourrait dire qu'on n'en a pas, est-ce que c'est vrai? Mais ce que Romains 3, dans le verset 10, dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de, juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Et je vais vous amener au verset 19 et au verset 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Pour que chacun d'entre nous, qu'on connaisse cette loi-là qui est parfaite de Dieu, de ce que Dieu révèle, et que même si j'ai enfreint un seul de ses commandements, je suis coupable. Et que toute bouche soit fermée. On ne peut pas dire, ah, mais moi, il n'y a pas de juste, mais peut-être juste un seul, puis ça, c'est moi. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et puis, on ne peut pas se justifier. Puis regardez le verset 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On a cette connaissance-là du péché parce que Dieu nous l'a révélé. Dieu, est-ce qu'il est méchant? Est-ce que Dieu veut notre mal? Évidemment pas. Est-ce que parce que Dieu a donné la loi qui révèle notre boulet, qu'on traîne comme ça notre vie, qu'il est mauvais? Ben non. Dieu est bon envers nous parce qu'il veut qu'on réalise qu'on est coupable à cause qu'on a enfreint la loi, à cause qu'on est des pécheurs, et c'est ça qui m'empêche de connaître Dieu. Je ne peux pas avoir une relation avec Dieu si je suis coupable, si je suis pécheur encore, si je suis resté dans mes péchés. J'ai une autre question pour vous. Je viens de poser la première question. Est-ce que tu es coupable? La Bible vient de dire que tout le monde est coupable. On est tous coupables. Et notre bouche va rester fermée devant lui parce que chacun d'entre nous, on est conscient qu'on a déjà péché et qu'on est coupable. Mais la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est quoi mon sort si je suis coupable? Si je suis coupable, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que Dieu, il va me condamner vraiment? La loi me condamne. Et puis, si Dieu me juge selon ses standards, est-ce que je suis innocent ou coupable? Je suis coupable. J'ai une autre question pour vous. Si on est coupable, vous avez déjà peut-être entendu ces mots-là, paradis ou enfer. Si je suis coupable, est-ce que je vais au ciel ou je vais en enfer? La pensée humaniste voudrait nous dire que Dieu n'enverra pas le monde en enfer. Parce qu'il est bon. Dieu, il est amour. Il ne voudrait pas que le monde aille en enfer. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? si je suis coupable, est-ce que je vais au ciel ou en enfer? Est-ce que ma condamnation devant Dieu fait que je vais réellement aller en enfer? Vous essayerez ça un jour, si je ne vous le souhaite pas, si vous allez en cour de justice et que vous êtes accusé et que vous êtes reconnu coupable, essayez de dire au juge, avant qu'il donne sa sentence, « T'es un bon juge. Je sais que tu ne donneras pas une sentence défavorable pour moi. Peu importe ce que j'ai fait. » Le juge, est-ce qu'il va dire « C'est vrai, je suis un bon juge. C'est vrai, je t'en donnerai pas de conséquences. » C'est faux. Dieu, il est un bon juge. Et justement, c'est pourquoi qu'il est bon. Il a une bonne justice. Il est parfait. Il est saint. Mais Dieu va donner une sentence qui est conforme aussi au jugement que l'on porte. Est-ce que je suis coupable? C'est quoi la conséquence finalement? C'est quoi mon sort? Hébreux 9, 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi? Vient le jugement. J'ai pas de deuxième chance. J'ai pas l'occasion d'arriver devant Dieu et dire, est-ce que je peux avoir ma deuxième chance? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de purgatoire. Il n'y en a pas de réincarnation. Est-ce que je vais pouvoir dire, j'ai la chance de revenir une deuxième fois, puis là, je vais me prendre en main? » C'est faux. On meurt une seule fois, après quoi? Vient le jugement. J'aurai à rendre compte de si je me présente devant Dieu, devant mon boulet, à recevoir ma sentence. C'est ça le jugement. Matthieu 3, 7, Jean-Baptiste, aujourd'hui on se souvient de la Saint-Jean-Baptiste, on pense à la Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait la repentance, il prêchait l'abandon du péché. Il disait « Repentez-vous aux gens qui venaient à lui ». Mais il y a des gens qui venaient à lui qui pensaient qu'eux étaient corrects, des pharisiens, des sadducéens. Et puis ces gens-là venaient à son baptême sans penser qu'eux, ils étaient coupables parce que c'était des bonnes personnes. Puis Jean-Baptiste les regarde et voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens et leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Est-ce que je peux éviter la colère à venir en disant, « Ben moi, je suis un bon gars. Comme je disais tantôt, mon boulet, il n'est pas si gros que ça. Puis je le polis. Puis des fois, je mets des fleurs autour. Ça fait qu'il paraît bien. » Ben je ne peux pas fuir la colère à venir si je me présente devant Dieu avec mon boulet. Tournez avec moi dans Jean 3. On va lire tantôt Jean 3 un petit peu plus en détail. Juste vous faire lire un verset maintenant, puis après ça, on va aller dans Actes. Quel est mon sort si je suis coupable? Si on est pécheur devant Dieu, est-ce que c'est une bonne nouvelle ce que je suis en train de vous dire présentement? Bien, ça paraît peut-être difficile un peu, mais c'est comme je vous disais tantôt, si je vous dis, « Hey, tu peux être libéré de ton boulet, mais que tu ne sais même pas que tu en as un, tu ne verras pas ça comme une bonne nouvelle. » Mais ce qu'on veut réaliser ce matin, c'est notre culpabilité devant Dieu. C'est de dire, « Oui, il y a une colère qui pèse sur moi à cause du péché, à cause que je suis un pécheur. » Et la bonne nouvelle s'en vient. Mais quel est le sort, par exemple, dans Jean 3, 36? « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Et voici la bonne nouvelle. « Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est fort. Est-ce que Dieu est en colère contre les hommes qui sont condamnés? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Même si je ne suis pas péché, même si je suis un bon gars, même si je suis un très mauvais gars, la colère de Dieu est sur moi si je reste dans mes péchés. C'est ça mon sort. Regardez, tournez dans Actes 17. Les versets 30 et 31. Acte 17, 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Quand est-ce qu'il annonce? Ah, maintenant. On peut-tu dire ce matin? Dieu annonce ce matin. À tous les hommes, est-ce que ça m'inclut? En tout lieu, qu'ils ont à quoi? À se repentir. C'est ce que Dieu nous annonce ce matin, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Selon quoi? Selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est de qui on parle? Jésus. Dieu a fixé un jour où Jésus va revenir puis va juger les hommes qui sont condamnés, les hommes qui sont restés dans leur péché. Dieu va revenir et il va juger selon sa justice. Est-ce qu'il va l'amoindrir? Est-ce qu'il va l'adoucir parce qu'il est bon? Mais Dieu est juste. puis il va juger selon sa justice. Et mais est-ce qu'on a un temps encore où est-ce qu'on peut se repentir? Dieu l'annonce maintenant. Mais si je ne me repens pas de mes péchés, si je ne crois pas en celui que Jésus a donné, en celui que Jésus a, que Dieu a ressuscité, c'est-à-dire Jésus, mais je ne pourrai pas avoir cette vie-là que Dieu veut que j'aille. Dans Proverbe 11:4, ça dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Dieu veut que l'on participe à la justice qu'il veut nous donner par Jésus-Christ. Et ça, on ne peut pas rien faire de par nos propres œuvres ou ce qu'on voudrait dire « Oui, mais moi, je vais l'enlever moi-même, mon boulet. Ben, donnez-moi une scie à faire, là, puis je vais m'en débarrasser. » On ne peut pas s'en débarrasser de nous-mêmes, de ce boulet-là. Puis le sort qui m'est réservé, c'est cette colère de Dieu-là qui demeure sur moi. La colère n'est pas un péché. Vous pourriez peut-être dire, « Ah, mais la colère de Dieu, finalement, tu es en train de dire que Dieu, il se met en colère. » Mais Dieu ne pêche pas. Dieu n'a jamais péché. Et Dieu, en se mettant en colère, ne pêche pas non plus. Évidemment, nous, dans notre colère, on est tellement attachés au péché qu'on peut pécher. Mais Dieu ne pêche pas. Dieu a déjà révélé sa colère dans le passé. Vous avez déjà entendu parler des villes de Sodome et Gomorre? Dieu a révélé sa colère contre ces deux villes-là. Contre Ninive aussi. Dieu a déjà révélé sa colère dans le temple. Vous vous souvenez avec Jésus dans le temple? Où ce que Jésus avait dit, ce temple-là est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus s'était mis en colère dans le temps, mais il n'avait pas péché. Dieu révèle sa colère comme ça contre toute impiété des hommes qui gardent injustement la vérité captive. La colère de Dieu existe. La colère de Dieu un jour va se révéler. Et je ne peux pas garder la vérité captive comme ça, et sachant très bien ce que Dieu veut que je fasse aussi. Un jour, Dieu a révélé sa colère dans un déluge. Si on lisait Genèse 6, on verrait que tous les hommes, à tous les jours, leur cœur se portait uniquement vers le péché, vers le mal. Le péché est tellement rendu abondant qu'un jour, la colère de Dieu s'est répandue sur la terre. Et il a gardé un reste avec Noé et sa famille. Mais ce qu'on ne doit pas ignorer, puis ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Dieu dit que ce même type de colère-là va revenir un jour aussi, ou ce que Dieu va détruire la terre aussi, pas par l'eau, parce qu'il a promis qu'il ne le ferait plus par l'eau. Mais si on lisait 2 Pierre 3, on verrait que Dieu va le refaire avec le feu, dans cette période de jugement-là, ce qui s'en vient. Dans l'Apocalypse, on voit cette colère-là qui sera déversée. Est-ce qu'on peut y échapper à cette colère-là? Est-ce qu'on peut y échapper? Cette colère-là demeure contre tout homme qui garde son boulet. Comment je fais pour m'en débarrasser? Comment je fais pour être libéré? Est-ce que tu es coupable? Si tu dis que oui, je suis coupable, tu es en train de réaliser que tu traînes un boulet. Tu es en train de réaliser que tu ne vis pas la liberté. Quel est le sort relié à cette condamnation-là, relié à ce boulet-là que l'on traîne? C'est le jugement qui s'en vient. Où est-ce que je vais être séparé de Dieu? Où est-ce que je ne pourrais pas goûter la vie que Dieu veut que j'aille? Et on pourrait penser que la vie que j'ai présentement, c'est une vie de liberté. Comme je disais tantôt, il n'y a rien qui m'empêche de me promener, de faire mes activités courantes avec mon boulet. Mais c'est une erreur que de penser ça. Dieu veut nous libérer, il veut qu'on vive cette vraie liberté-là aussi. Il y a de l'espérance pour le coupable. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle que je voulais vous laisser ce matin. C'est que si je réalise que je suis un pécheur, si je sais que je suis condamné par la loi de Dieu, si je sais que le jugement est sur moi à cause du péché, mais il y a de l'espérance aussi pour le coupable. Et c'est ça que la Bible dit. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'Évangile. C'est que oui, il y a de l'espérance à cause de l'amour de Dieu. Revenez dans Jean 3. À un moment donné, peut-être vous avez déjà entendu l'histoire du peuple qui sortait de l'Égypte. Et puis, ils étaient esclaves en Égypte. Et puis, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et puis, ils se promenaient. Puis là, à un moment donné, il fallait qu'ils fassent un détour. Ils ne pouvaient pas passer par un certain chemin. Et puis, il fallait qu'ils fassent un détour dans le désert pour se rendre à la terre promise que Dieu leur avait promis, puis vers laquelle ils s'en allaient. Puis, tout à coup, le peuple s'est mis à dire, « On s'ennuie de nos cocombres. » « Ah, on est tanné. Ah, il fait chaud. Coudon, Dieu nous a-tu fait sortir de l'Égypte, finalement, pour qu'on tourne dans le désert? Ah, on n'a pas d'eau. On est tanné de manger de la manne. Tu sais, la manne qui tombait du ciel, là. On est tanné, ça goûte tout le temps la même affaire. Et puis, alors, le peuple commençait à chialer. Et ces murmures-là, Dieu les a entendus. Et il a compris clairement que c'était du péché, justement. Parce que les gens chialaient contre Dieu. Ils se plaignaient contre Dieu et contre Moïse. Et puis Dieu leur a donné une conséquence. Il a envoyé des serpents. Des serpents brûlants, que la Bible les appelle. Et là, les serpents, il y en avait tellement qu'ils mordaient tous les gens dans le peuple. Et là, les gens mouraient. Puis ils tombaient sous la morsure des serpents. Et puis là, le peuple a réalisé leur péché. Ils ont dit à Moïse, « Moïse, on réalise qu'on a péché, on réalise qu'on est coupable, c'est, on a chialé de, contre Dieu, on a oublié tout ce qu'il a fait pour nous, et puis prie Dieu pour qu'il puisse intervenir. » Et alors Moïse va prier Dieu, et puis Dieu dit à Moïse, « Tu vas élever un serpent d'airain dans le désert, et puis les gens qui vont regarder le serpent vont être guéris de leur morsure. » Alors les gens continuent de mourir dans le désert, mais ils se tournaient vers le serpent que Moïse avait érigé, et puis les gens étaient guéris de leur morsure. Ils ne mouraient pas. Et en regardant ce serpent-là, les gens étaient guéris d'une morsure qui les amenait à la mort. Une morsure qui était une mort qui était certaine, puisqu'ils ne pouvaient pas s'en libérer. Jésus a utilisé cette même histoire-là que je viens de vous raconter pour se l'approprier à lui-même. Ce qu'on va voir dans Jean 3. Vous avez déjà trouvé Jean 3? Regardez à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est en train de dire, comme le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé aussi. Qu'est-ce que ça symbolisait, le fait que ce serpent-là soit élevé dans le désert? C'était juste une décoration? Ben non, c'était un moyen pour eux d'être sauvés de leur morsure. Jésus qui est venu, qui a été élevé, qui a été crucifié sur la croix, est-ce que c'est juste une histoire? Non, c'est le moyen que Dieu nous a donné, où ce que Jésus étant crucifié sur la croix, quand on se tourne vers lui, puis qu'on croit en lui, il nous donne la vie. Ce boulet-là que l'on traîne nous emmène vers une mort certaine, une mort éternelle, nous mène vers l'enfer. La colère de Dieu demeure sur nous, mais Dieu nous aime tellement qu'il n'a jamais voulu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on aille en enfer? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on traîne ce boulet-là toute notre vie? Non. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvé, c'est qu'on vienne à la repentance, qu'on soit libéré de ça. Mais est-ce que Dieu nous force et dit « Hey, tourne ta tête par là, regarde, c'est Jésus ». Ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est que de notre cœur, on se repente, puis qu'on tourne la tête vers Jésus, puis qu'on lui demande pardon. Puis qu'on dit, je te demande pardon, puis je crois en toi. Et c'est comme ça que Jésus vous donne la vie. C'est comme ça que Jésus me donne la vie, en croyant. Et c'est ce que Jésus lui-même vient de dire, verset 15, « Afin que quiconque, puis ça, peu importe les crimes que vous avez faits, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on ne se tourne pas vers Jésus, si on ne croit pas en lui, on va périr dans nos péchés. On va mourir dans nos péchés. La condamnation demeure, parce que le péché demeure aussi. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on meure comme ça dans nos péchés? Ben non! Dieu nous a tellement aimés, Dieu vous a tellement aimés, qu'il a donné ce qui va être plus cher. Dans une relation intime qu'il avait avec son Fils, il a été prêt à sacrifier son Fils, à donner Jésus pour qu'il meure pour chacun d'entre nous. Et verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus y est venu pour vous sauver. Un jour, Jésus va revenir. Ce temps-là, il est futur. Ce jour-là, il est futur. Et puis, il va y en avoir un jugement. Mais la première venue de Jésus, elle est déjà faite. Et c'est ce temps-là que l'on a maintenant pour se repentir. Est-ce que je connais le jour où ce que Jésus va revenir pour juger? Je ne le connais pas, ce jour-là. Mais j'ai encore la chance aujourd'hui de pouvoir me repentir. Et c'était ça l'œuvre de Jésus en venant. Et verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dieu, il dit, dans Acte 12, que je vais vous citer, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, Jésus-Christ, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus est le seul nom par lequel on puisse être sauvé. Jésus est le seul qui peut vous libérer de vos péchés. Et plein de religions viennent, plein de gens viennent en disant, nous, on a une solution pour ton boulet. Utilise ma pince très coupante et tu vas pouvoir te libérer de tes péchés. Utilise telle-ci, utilise telle chose. Et puis, ce que Dieu a donné comme preuve, c'est la mort de son Fils, mais la résurrection aussi de son Fils, étant le seul qui peut prendre justement nos péchés, étant le seul qui peut justement nous sauver et nous libérer de ces péchés-là que l'on traîne. Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, quoi? Christ est mort pour nous. Même le plus mauvais que vous pourriez être, incluant moi, avant qu'on soit repenti, Jésus est mort pour toi. Aussi mauvais que tu pourrais être, et aussi bon que tu penses pouvoir être, Jésus est mort pour toi. Mais si je crois en lui, si je crois en Jésus, on n'est pas jugé. J'aurais pu lire Romains 8, 1, ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés, on n'est plus jugé. Jésus a pris notre place. C'est comme si à la cour de justice, on est reconnu coupable. On est coupable. On n'a plus rien à dire pour se justifier. Mais Jésus arrive et il dit, « Moi, je suis prêt à prendre ta sentence. Moi, je suis prêt à prendre ta place. Moi, je suis prêt à le prendre ton boulet. » Et il a déjà subi la condamnation de mes péchés. Il a déjà pris mes péchés. Laissez-moi vous citer, dans Galates 3, 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus a pris notre condamnation. Puis ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est, « Donne-moi tes péchés. Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te les enlever. » Et quand je me tourne vers Jésus, puis quand je me repens comme ça de mes péchés, j'en ai plus de boulet. Et puis tout à coup, et d'un sens vraiment littéral, j'ai vraiment la jambe plus libre, je me sens beaucoup plus léger, et Jésus a pris mes péchés. Et j'en ai plus, et c'est ça la liberté que Jésus veut que je vive. Et j'en ai plus de condamnation, parce que ce boulet-là à laquelle ma condamnation était rattachée, j'en suis libéré, j'en ai plus. Il a pris ma condamnation, et c'est comme si à cette justice-là, Jésus, cette cour de justice-là, Jésus avait dit « Je prends ta place ». Puis je lui donne mes péchés. Il veut les prendre. Imaginons que vous êtes avec nous dans l'avion, on se prend en France. Et puis, on est assis, comme vous voyez. Et puis, tout à coup, le capitaine dit, un moment d'attention, la queue de l'avion vient de se détacher. Pas de panique. vous pouvez quand même être sauvé d'un crash certain qui s'en vient, puisqu'évidemment, on n'a plus de queue sur l'avion. Mais vous avez un parachute en dessous de votre banc que vous avez juste à revêtir et que vous allez pouvoir être sauvé de ce crash qui s'en vient qui est certain. Alors, quel choix qu'il me reste? Alors, il me reste d'autres choix. J'ai deux choix et il y en a un, j'imagine, qui est plus sage que l'autre. J'ai le choix de dire, bon, ben, moi, je profite du reste du voyage. Le film est bon, les peanuts sont bonnes, on commencera pas à se casser la tête puis s'encombrer d'un parachute, parce que de toute façon, on est assis, peut-être que on a des turbulences un peu, mais c'est correct, de toute façon, tout le monde va mourir, tout le monde s'en va dans le crash, comme ça. Et l'autre occasion que j'ai, et l'autre option que j'ai, moi, je le prends le parachute, parce que je veux pas tomber, je veux pas me crasher avec cet avion-là qui s'en va, et là, je m'assois, et je suis content d'avoir mon parachute. Et j'imagine que si j'étais dans l'avion, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de l'avion, mais j'imagine que s'il n'y avait plus de queue sur l'avion, je serais content d'avoir un parachute. Et quand même qu'il y a des turbulences, quand même que l'hôtesse de l'air me renverse le café sur moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai la certitude que je vais être sauvé de ce crash-là qui s'en vient parce que j'ai mon parachute. Est-ce que les gens vont rire de moi? « Ah, regarde, il est mal assis, lui. Il essaye son parachute tout croche. » Et puis, regarde, il est encombré de quelque chose qu'il ne profite même pas du film, il ne profite pas des peanuts. Et puis, ça ne me dérangera pas. Ça ne me dérangera pas parce que j'ai une certitude dans mon cœur que je suis sauvé. Que Dieu a déjà pourvu un moyen de salut. C'est ça la vie présente que l'on a sur terre. Dieu est en train de nous dire, c'est ça le début du message, Dieu est en train de nous dire, la queue sur l'avion, il n'y en a plus. notre vie, elle s'en va pour s'écrouler. Et ça, c'est le même pour tout le monde. On est tous dans le même avion, dans le même bateau. Et on s'en va tous comme ça. Mais il y a un parachute qui est en dessous de notre banc. Il y a un moyen de salut qui est tellement accessible que vous n'avez même pas besoin de vous lever. Et j'imagine ça, là. Mais il faut que vous compreniez que vous devez vous repentir pour prendre ce parachute-là. Vous devez comprendre que vous devez demander pardon pour vos péchés. Ça, c'est réaliser le fait de prendre ce parachute-là puis de le mettre sur mes épaules puis de dire, moi, je vais être sauvé. Moi, je vais prendre le parachute. Et de dire à Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je ne veux plus vivre avec ce poids-là que j'ai, que je traîne avec mes péchés, mais je veux être libéré. Et quand que j'ai ce parachute-là, quand j'ai le salut que Dieu m'a donné, j'ai cette certitude-là que quand je vais mourir, je vais vivre quand même, parce que j'ai la vie éternelle, que je vais avoir une relation avec Dieu, même au-delà de la mort. Je sais que quand je vais mourir, de jugement sur moi, de condamnation sur moi, il n'y en aura pas, parce que je suis sauvé, parce que Dieu m'a donné la vie éternelle, parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, qui est le seul en qui on peut placer notre foi. Ce matin, c'est ça le message que je vais faire ressortir des Écritures. Ce message-là, il est vrai pour chacun d'entre nous. Ce message-là, il est vrai pour tout le monde. Et c'est un message que Jésus veut vous donner. C'est un message que Dieu veut que vous compreniez parce qu'il est indispensable que de le comprendre. Vous ne pouvez pas négliger ce message-là en disant « Je profite du voyage, je regarde le film jusqu'à la fin, puis après ça, on verra si c'est vrai. » Croyez ce que Dieu vous dit. Croyez qu'est-ce que Dieu vous dit et que vous pouvez être sauvé justement. Dieu, il veut vous parler, puis Dieu veut vous écouter aussi. Dieu veut avoir une relation avec toi, puis Dieu veut te connaître, puis il veut se faire connaître à toi. Et puis, tu peux prier Dieu ce matin. Tu peux lui parler sans artifice, sans extravagance. Tu peux juste te courber, fermer tes yeux, puis parler à Dieu. Tu peux lui parler, puis tu peux le dire ce matin à Dieu. Je demande pardon pour mes péchés. Je suis coupable. Ce que je comprends de la Bible, ce que je comprends de ta loi qui est parfaite, je suis coupable. Puis je comprends de la sentence qui s'en vient sur ma culpabilité, c'est une séparation d'avec toi. C'est l'enfer. Mais je comprends que j'ai de l'espérance en Jésus-Christ aussi. Tu peux lui dire ça, tu peux lui demander pardon pour tes péchés. J'aimerais ça qu'on baisse nos têtes, qu'on ferme nos yeux. Et ce matin, je veux te donner cette occasion-là d'être sauvé, d'avoir la certitude d'être sauvé. Et tu peux faire une prière simple que tu peux dire à Dieu. Dieu, je reconnais que tu es saint, tu es droit et tu es juste. Je confesse que j'ai péché contre toi. Je vois ce que la Bible me dit. Je vois ce que ta loi me dit puis je vois que je suis coupable. J'ai maintes fois violé ta loi et mérité la punition éternelle. Je sais maintenant que le sort qui m'est réservé, c'est à cause de ces péchés-là. Je suis séparé de toi. Pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi. Je veux me détourner de mes péchés. Je place ma foi en Jésus. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il veut me donner la vie. Prends mes péchés. Prends ces fardeaux-là qui pèsent sur mes épaules. Ce boulet-là que je traîne et que je sais qu'il est synonyme d'une condamnation qui s'en vient. Et puis libère-moi-en. Prends-le sur toi et sauve ma vie parce que je suis coupable devant toi. Seigneur, je vois la loi qui me brise, je vois la loi qui est parfaite, ta loi, et qui me condamne. Mais je veux saisir la grâce qui m'est offerte aussi, de pouvoir être libéré par Jésus qui a pris ma place, qui a pris ma condamnation. Je demande pardon, Dieu, puis je veux me repentir de mes péchés. Je ne sais pas si ce matin, il y en a d'entre vous qui ont fait cette prière. S'il y en a d'entre vous qui ont dit à Jésus, « Je vais être sauvé. » Jésus veut te prendre dans sa main. Dieu veut te sauver. Dieu veut te connaître personnellement. S'il y en a qui ont fait cette prière-là ce matin, qui ont donné leur vie ce matin à Jésus, fais juste lever ta main, que je puisse te regarder, puis que je puisse prier pour toi aussi. S'il y en a qui ont donné leur vie à Jésus ce matin, faites juste me l'indiquer par un signe de main. Et si tu n'es pas sûr encore, si tu dis, c'est la première fois que j'entends que je suis coupable devant Dieu, J'aimerais ça en savoir plus. Je veux t'encourager à en parler avec quelqu'un, peut-être avec qui tu es venu ici. Je veux t'encourager à lire la parole, à ce que Dieu a à te dire, pour que tu puisses vraiment comprendre le message que Dieu veut que tu aies, que tu comprennes, pour que tu puisses être sauvé. Seigneur, on vient devant toi, on veut te dire merci pour ce salut qui nous est offert, pour cette liberté que l'on a en Jésus-Christ. On est libéré de nos péchés. On a cette joie-là de ne plus avoir cette condamnation-là. On a cette joie-là de pouvoir te connaître, de pouvoir avoir une relation avec toi. Seigneur, je te prie pour nous qui sommes croyants aussi, pour que tu nous donnes ce zèle à l'Évangile, pour que l'on puisse partager ta parole avec zèle, que l'on puisse aller au-devant, que l'on puisse intentionnellement, Seigneur, parler de Jésus et de parler de ce message de liberté que tu veux donner à tous les hommes. Jésus, il a été crucifié et ressuscité, et tous les hommes peuvent se tourner vers lui pour être sauvés, Seigneur. Aide-nous à partager ce message de vie par lequel on est accompagné de l'Esprit qui nous donne sa puissance. Seigneur, on veut en même temps te demander pardon parce que des fois, on se plaint du voyage, qu'il y a des turbulences, mais on est sauvé. On a cette certitude-là d'avoir une relation avec toi. Et on te dit merci. Merci parce qu'on est sauvé d'une mort certaine. On est sauvé de l'enfer. On est sauvé du jugement. Et on est vraiment reconnaissant de cette joie-là que tu crées dans nos vies. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen.